Nous continuons donc l'épître aux Éphésiens et nous sommes rendus à Éphésiens chapitre 5 versets 8 à 14 et le thème à partir du chapitre 4 est la marche du croyant et le titre du message ce matin, vous en doutez, c'est la marche dans la lumière. Autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière. En fait, le livre aux Éphésiens a deux grandes parties. C'est un rappel, mais c'est bon de se souvenir là où nous nous situons dans le livre. Deux grandes parties, chapitres 1 à 3. On a regardé ça déjà ensemble en détail. La position du croyant en Christ, ce qu'il est en Christ. Et puis la marche du croyant et le combat du croyant à partir du chapitre 4. Et on a déjà regardé ensemble à partir du chapitre 4 que le croyant marche selon Dieu en rapport avec l'Église, dans la marche du croyant dans la vie de l'Église, dans la vie personnelle, et nous avons regardé en détail verset 17 au verset 32, et puis dans la société, et enfin au sein de la famille. Dieu nous exhorte à marcher d'une façon digne. Et la façon digne qui est présentée au début du chapitre 4, c'est notamment de vivre en toute humilité, douceur, patience, amour, et puis de garder l'unité de l'esprit. Alors l'unité amène la croissance dans l'Église. On voit ça à partir du verset 4 jusqu'au verset 16, qui est vraiment l'utilisation des dons de chacun dans la grâce et l'humilité. Et à partir du verset 17 jusqu'au verset 20, on voit que le croyant est appelé à ne pas marcher comme les païens, mais verset 21 jusqu'au verset 24, à marcher en nouveauté de vie. Et donc, puisqu'il a une nouvelle vie en lui, il a une nouvelle conduite. Il y a un contraste entre ce que nous étions avant, ce que nous sommes maintenant, à partir du verset 25 jusqu'au verset 32. Dieu nous appelle à renoncer aux mensonges. Il nous appelle à ne pas nous mettre en colère, en tout cas une colère injuste, de renoncer au vol et de veiller sur nos paroles, de ne pas attrister le Saint-Esprit. À partir du chapitre 5, nous avons ici une exhortation à devenir les imitateurs de Dieu. Rien que ça, je pense que ça pourrait faire l'objet, n'est-ce pas, de toute une vie de méditation. Être imitateur de Dieu comme des enfants bien-aimés. Est-ce que les enfants ne devraient pas vouloir ressembler à leurs parents? Et une façon d'imiter Dieu, tout d'abord, c'est de marcher dans l'amour. Une autre façon que nous allons regarder ce matin, c'est de marcher dans la lumière. Une autre façon, pour terminer le chapitre, Paul nous exhorte à marcher dans la sagesse. Alors, nous avons déjà regardé que marcher dans l'amour, c'est être imitateur de Dieu. Évidemment, le modèle, c'est Jésus-Christ. En fait, Paul a comme une supplication que nos yeux restent fixés sur Jésus, que ce soit lui notre modèle, que nous ne nous contentions pas de nous-mêmes ou de ce qui nous entoure, mais que notre modèle parfait soit Jésus-Christ, qui a manifesté son amour et qui est comme une offrande, et un sacrifice de bonne odeur qui s'est consacré à Dieu le Père, qui a servi, et on le sait, en obéissance jusqu'à la mort de la croix. Et puis Dieu nous appelle aussi, ce que nous avons vu dimanche dernier, à vivre séparés du péché, que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Donc nous avons regardé en détail cette liste, n'est-ce pas, de péchés qui devraient, pour lesquels on devrait se séparer le plus loin possible. Et on a vu que le péché, évidemment, est un obstacle à la marche du croyant. Donc ce matin, nous allons regarder la marche dans la lumière. Pour être dans la lumière, il faut être un enfant de lumière. Et je crois que la première question que ce texte nous pose est, est-ce que je suis un enfant de lumière? Est-ce que je suis sauvé? Est-ce que j'appartiens à Jésus-Christ qui est la lumière du monde? Et la deuxième question, si je suis un enfant de lumière, est-ce que je me comporte comme un enfant de lumière? Est-ce que je marche comme un enfant de lumière? C'est ce que nous allons essayer de voir ce matin. En fait, Dieu nous exhorte à devenir ses imitateurs. Le modèle est parfait en Christ, notamment à marcher dans l'amour. Mais une autre façon de devenir imitateur de Dieu, c'est de marcher dans la lumière. C'est pour ça que Paul dit, autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. En fait, l'Écriture, et nous pourrions juste regarder le sujet de la lumière, tellement c'est extraordinaire dans les Écritures, mais brièvement, nous pouvons déjà dire que Dieu présente, l'Écriture présente Dieu comme notre lumière et notre salut. Notre lumière à toujours, et sa parole est appelée une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Et Christ est appelé la lumière des nations, la véritable lumière qui éclaire tout homme et la lumière du monde. Le sujet de la lumière, et c'est le mot lumière, d'ailleurs un des mots clés de l'évangile de Jean, est abondamment présenté dans l'évangile de Jean. Donc si un croyant veut imiter Dieu, et c'est un commandement ici, devenez donc les imitateurs de Dieu, il doit d'abord recevoir la lumière et ensuite briller, refléter sa lumière dans sa vie. L'image de la lumière, on peut dire qu'elle est utilisée de deux façons, sur un plan intellectuel et sur le plan moral. Sur le plan intellectuel, elle représente la vérité, alors que moralement parlant, elle représente la sainteté. Autrement dit, vivre dans la lumière, c'est donc vivre dans la vérité, dans la sainteté. Je suis en train de préparer une série donc sur la famille pour notre retraite de pasteur. Et ce qui me frappe, c'est que le bonheur d'une famille dépend vraiment du niveau de sainteté qui est exercé au sein du foyer. Vivre dans la lumière, c'est donc vivre dans la vérité et dans la sainteté. Contrairement, l'image des ténèbres, c'est qu'il y a les deux aspects aussi, intellect et moral. C'est d'abord intellectuellement vivre dans l'ignorance et le mensonge, et moralement, c'est vivre dans le mal et le péché. En fait, nous sommes touchés par ce que nous savons et croyons. C'est notre domaine intellectuel. Et nous vivons par ce que nous pensons et agissons. La Bible dit en 2 Corinthiens 4, verset 3-4, « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Ce que nous pensons et ce que nous croyons aboutit automatiquement dans nos vies à des comportements et des actions. Aveugler l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. » Et un peu plus loin, en Romains, il est écrit, « Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. » Ce que nous pensons reflète ce que nous sommes, ce que nous croyons et ce que nous faisons. En Éphésiens 4, 18, on a vu déjà qu'ils ont l'intelligence obscurcie en parlant de celui qui n'a aucune vie avec le Seigneur, un païen, donc une vie séparée. Ce terme est employé ici pour montrer une vie séparée d'avec Dieu. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Et en Ésaïe 5, verset 20, « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. » Et en fait, Paul nous exhorte en Romains, finalement, 13-12, « Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. » En fait, ce que nous pensons affecte profondément ce que nous vivons. Et Dieu nous demande à marcher dans la lumière. Et je vous donne un autre verset, si vous me permettez, mais c'est une exhortation à marcher dans la lumière de la part de l'apôtre Jean qui nous dit, en 1 Jean chapitre 1, versets 5 à 7, « La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion, le mot ici grec c'est koinonia, en communion, en relation avec lui, et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Non seulement le croyant doit vivre en pleine lumière de façon individuelle, mais le croyant est obligé de vivre en pleine lumière de façon collective. En fait, par ta lumière, dit le psalmiste, je vois ta lumière. La lumière de Christ qu'on a reçue nous permet de voir encore plus. Et souvent, Dieu permet, n'est-ce pas, comme une sonde de pénétrer dans notre âme et dans notre intelligence, notre esprit, nos émotions, notre volonté, pour nous montrer ce qui doit être réformé dans notre vie. Une façon de vivre dans la lumière en Christ dans l'Église, c'est que chacun confesse son péché devant Dieu, accepte la lumière que Dieu met sur son cœur au travers, certainement, de la méditation, l'étude et la mémorisation des Écritures, et accepte de se dépouiller pour marcher dans la lumière. Nous ne sommes pas, même si nous sommes lumière, nous ne sommes pas lumière comme Christ qui est lumière, n'est-ce pas, entièrement. Dieu a fait, nous a donné cette nouvelle nature, mais il y a des choses en nous qui doivent être transformées, et parce que nous avons reçu cette lumière, elle nous éclaire et nous montre ce qui doit être transformé dans notre vie, abandonné, et lorsque cela se fait, c'est une bénédiction autour de nous et dans l'Église. En fait, l'apôtre Paul, ici, dans ce passage, nous donne 5 points ou 5 choses dont nous devrions être conscients pour vivre dans la lumière divine. Tout d'abord, il fait un contraste entre les ténèbres et la lumière. Vous étiez ténèbres, vous êtes lumière. Un contraste frappant entre ce qui est ténèbres et lumière, nous allons le regarder. Il parle ensuite des caractéristiques de la lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Et ensuite, il y a un commandement clair ici dans les Écritures, examinez ce qui est agréable au Seigneur. Ici, c'est un impératif, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. C'est le mandat du croyant qui ne doit pas participer à ce qui est mauvais, car il est honteux de dire ce qu'ils font. Et puis, il y a un appel. L'apôtre Paul termine ici par un appel, c'est pour cela qu'il est dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. » En 1 Jean chapitre 1 verset 5, nous avons déjà lu « La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. » C'est merveilleux d'avoir un Dieu comme cela, un Dieu de toute lumière. Il n'y a pas une ombre de ténèbres en lui parce que Dieu est lumière. Jésus-Christ a dit « Je suis la lumière du monde » Jean 8 verset 12 « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Je vous invite à tourner dans vos Bibles juste un petit peu avant, en Éphésiens chapitre 2, et nous avons déjà regardé sous la plume de l'apôtre Paul ce que nous étions autrefois. Ici, Paul insiste, vous étiez autrefois, vous étiez ténèbres. Et il est écrit en chapitre 2, verset 1, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois, selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. En fait, ici, le passé indique que c'est une condition qui n'existe plus chez le croyant. Vous étiez ténèbres. C'est du passé, c'est un fait passé, et maintenant nous sommes appelés à vivre dans la lumière. Ici, je voudrais juste faire une petite remarque, c'est que vous avez certainement remarqué avec moi qu'il est écrit « vous étiez ténèbres ». Il n'est pas écrit « vous étiez dans les ténèbres » ou « des ténèbres ». Il est écrit « vous étiez ténèbres ». On dirait que l'apôtre Paul ici veut nous dire que tout simplement, tout ce que nous vivions, tout ce que nous respirions, tout ce que nous faisions, tout ce que nous pensions était ténèbres parce que tout simplement, notre nature intrinsèque était ténèbres. En fait, on peut vivre dans les ténèbres, c'est sûr, mais on est tout simplement en train de vivre dans les ténèbres parce que par nature, on est ténèbres. Et la Bible dit que nous étions des fils de la révolte ou des fils de la rébellion. En fait, nous étions esclaves du diable et quelque part, peut-être plus ou moins consciemment, nous étions coopérants avec le diable parce qu'on est ténèbres. Par le fait qu'on est dans le péché, on vit dans le péché, peut-être on ne se rend même pas compte qu'on est dans le péché, qu'on est péché. Et c'est pareil pour les ténèbres. En fait, Satan nous maintenait comme, n'est-ce pas, des marionnettes, et il nous dirigeait, et nous étions ses esclaves. Alors on est ténèbres par nature et puis on est dans ce monde de ténèbres sans Christ qui est en fait le monde de Satan. Il y a quatre caractéristiques que les Écritures mentionnent au sujet des ténèbres spirituelles. Tout d'abord, elles sont l'œuvre de Satan. Nous lisons en Jean chapitre 8, si vous voulez tourner dans vos Bibles, en Jean chapitre 8, nous avons regardé en détail cela dans nos groupes de maison, mais il y a une chose qui est soulignée par Jésus-Christ après avoir fait face, n'est-ce pas, à une telle résistance, notamment des pharisiens, après avoir parlé du fait que finalement ils sont dans le péché perdu. Et ils sont, oui, ils ont pour père Abraham parce que ils sont fils d'Abraham de chair, mais pas spirituel. Et puis il leur dit finalement, vous n'êtes pas enfants de Dieu et vous êtes perdus. Et vous avez pas pour Dieu comme père, mais le diable. Et au verset 44, Jésus dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. En fait, Satan est décrit comme le prince de ténèbres. Il n'y a pas de vérité en lui. Et c'est difficile pour nous, peut-être à l'instar même de ces Juifs, n'est-ce pas, qui ne voulaient pas reconnaître finalement, qui ne connaissaient pas Dieu comme Père réellement, c'est difficile pour nous de voir les gens autour de nous et de penser qu'ils sont des enfants du diable. Lorsqu'on est enfant de Dieu, on n'est plus un enfant du diable, on a été régénéré, et maintenant c'est Dieu qui nous conduit. On n'est plus esclave du diable, on n'est plus maîtrisé par le péché, par la puissance du péché, parce que nous avons une nouvelle puissance en nous, l'esprit de vie. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort, nous dit l'apôtre Paul. En fait, il y a deux catégories de gens sur terre. Mais est-ce que nous voyons cela comme ça? Il y a les enfants du diable et les enfants de Dieu. Bien sûr, pour nous qui connaissons la vérité, il n'y a pas de place pour la suffisance, l'orgueil spirituel, parce qu'on sait que nous avons été délivrés de nos péchés et sauvés par grâce. Mais nous ne pouvons pas sauver le monde perdu si nous ne le voyons pas vraiment perdu. Parfois, nous nous arrêtons à l'apparence, au succès, à la position sociale, voire à toutes sortes, n'est-ce pas, de façades du monde. Et même, il y a une certaine joie du monde. Et puis, il y a un plaisir dans le monde qui est le plaisir du péché. Mais est-ce que nous réalisons que la personne la plus sympathique qui existe au monde, ou même la plus conviviale, la plus chaleureuse que nous côtoyons, si elle n'est pas un enfant de Dieu, elle est un enfant de diable, et elle ira passer l'éternité en enfer. Avec les sorciers qui ont manipulé les démons, ce sera le même résultat. Mais nous n'avons pas envie de penser comme cela, parce que nous oublions la compassion de Christ et nous oublions de voir avec les yeux fixés sur l'éternité. Mais si nous commençons à considérer et avoir un père, une mère, un frère, une sœur, un enfant, un proche parent, un voisin, avec ses yeux, en pensant que la personne est perdue, et qu'elle est en route pour l'enfer, peut-être certainement par ignorance, mais que c'est une réalité, nous allons avoir de la compassion. Nous allons être touchés au plus profond de nos cœurs pour les arracher, n'est-ce pas, de l'enfer. Est-ce que nous avons cette vision que Jésus-Christ a? Lorsqu'il regarda la foule, la Bible dit qu'il fut ému de compassion, parce qu'il voyait la foule sans berger, harassée, déprimée, sans direction. Mais qui sont ceux qui vont donner la direction? Quels sont ceux qui vont rectifier la destinée de ces gens perdus, si ce n'est les enfants de Dieu? Bien sûr, sous l'action de Dieu et la souveraineté de Dieu et la puissance de Dieu, c'est évident. Donc, Satan est celui qui est ténèbre et c'est son œuvre. Deuxièmement, c'est son royaume. Satan a un royaume. On parle même de la puissance des ténèbres. Je vous lis trois textes rapidement. Pour le croyant, Paul dit en Colossiens que Dieu, Christ, nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Vous n'avez jamais essayé de témoigner à quelqu'un, ça vous semble tellement clair. Et vous avez envie de témoigner de Jésus-Christ. Mais il y a une telle résistance, une force, une puissance, malgré la personne peut-être elle-même. Et vous savez que le monde nous dit, Jean, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Une des choses que j'ai trouvées assez difficile à ma conversion, c'est qu'on découvre Jésus-Christ, la grâce de Jésus-Christ, on est prêt à faire des bons, d'être sauvé, d'être en route pour le ciel, et rapidement on découvre que Satan existe. Et heureusement que Dieu ne nous laisse pas aveugler par rapport à l'existence du diable et le péché en nous, et il nous éclaire. Parce qu'il nous montre que le diable est réellement le diable et que le monde est sous la puissance du malin et que nous allons être automatiquement persécutés lorsque nous allons commencer à témoigner de Jésus-Christ parce que le monde est sous la puissance du malin. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il y a peut-être des gens qui ne veulent pas se convertir, abandonner leur péché, mais je peux vous dire qu'il y a des gens qui viennent parfois voir des croyants parce qu'ils ont des luttes, des liens avec le diable. Ils ont tout essayé pour se délivrer. Et il n'y a qu'une seule solution qui délivre de la puissance des ténèbres, c'est le sang de Jésus-Christ et la vie de Jésus-Christ par sa mort et sa résurrection. Alors le monde ici... Je vais juste faire une remarque. C'est qu'en fait, le monde a cette pensée, si on accepte Dieu, on n'est plus libre. Si on accepte Dieu, on perd sa liberté. À quoi bon se donner, n'est-ce pas, sous l'esclavage d'un autre? Mais vaut-il mieux pas être esclave de Christ qu'être esclave du monde, du péché et du diable? En fait, la liberté que nous avons en Dieu, c'est une vraie liberté. Tandis que Satan donne la liberté de pécher comme l'homme veut pécher. Je me souviens d'un homme qui nous a témoigné de sa foi, un ancien homosexuel qui était qui travaillait dans la musique, dans des boîtes de nuit, et qui dirigeait la musique, et qui est devenu homosexuel à cause de la musique qu'il nous a expliqué qu'il avait entendue. Et il a donné tout un témoignage de l'influence de la musique et comment des vedettes de la chanson, avec preuve à l'appui, s'était donné au diable pour avoir du succès. Mais c'est une fausse liberté. La drogue semble amener une liberté, n'est-ce pas? Le péché semble donner une jouissance un certain temps de liberté, mais il nous rattrape rapidement, et il rattrape le monde d'aujourd'hui avec ses graves conséquences. Donc la Bible dit, et nous pouvons nous associer à cela, mais grâce au rendu à Dieu, de ce qu'après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine à laquelle vous avez été instruits, ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Et on peut dire comme l'apôtre Paul, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Nous qui avons goûté la vraie liberté, on ne veut pas retomber dans l'esclavage du péché, on ne veut pas retomber dans les ténèbres. Maintenant qu'on est lumière, on a goûté que le Seigneur est bon. Donc les ténèbres sont l'œuvre de Satan, c'est le domaine de Satan, mais les ténèbres amènent un châtiment de Dieu. Non seulement Satan sera jugé un jour et jeté dans les temps de feu et de soufre pour l'éternité, mais la Bible dit « la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion qui sont par nature des enfants de colère ». La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. C'est un peu incompréhensible parfois, je ne sais pas, vous, lorsque nous témoignons à des gens, même assez proches que nous aimons, ils nous voient vivre depuis des années, nous pouvons témoigner et par les actions, et par l'amour, et par les paroles, et par le fait que Dieu nous ait transformés, et puis être face à une résistance permanente. Et on peut se poser la question, pourquoi Dieu permet cela? Mais Seigneur, est-ce que tu ne peux pas toucher leur cœur comme tu m'as un jour convaincu de péché et fait craindre, n'est-ce pas, l'éternité et puis Dieu et sa sainteté? Et pourquoi tu ne parles pas à leur cœur? Mais je pense que Dieu leur parle. Mais ils ont fait un choix. La Bible dit que les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Et il y a un choix de l'homme qui le rend responsable face à Dieu. Et finalement, les ténèbres spirituelles conduisent à une destinée éternelle de ténèbres spirituelles. Il est écrit, seront jetés dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Les ténèbres amènent à l'enfer. Les ténèbres conduisent à un jugement éternel d'avec Dieu qui est un jugement de séparation d'avec Dieu pour toujours. Le monde aujourd'hui est confus, injuste, corrompu, sans espoir. Comme a écrit quelqu'un, on y trouve une compulsion constante à tromper, mentir, voler, commettre l'immoralité, tuer et commettre toutes sortes de mal. Autant la propension du monde à pécher est évidente, autant également évident le fait que les hommes ne peuvent pas trouver la réalité là où ils s'obstinent à la chercher. Les hommes rejettent la vérité. C'est une grande question pour nous qui voulons amener la France au Seigneur, qui voulons amener la France à un réveil spirituel et connaître un vrai réveil spirituel où des milliers de gens se convertissent. Pourquoi il y a une telle résistance? Je vous lis un passage qui est bouleversant, mais qu'on connaît bien. En Jean 3 est écrit, ce jugement, c'est Jésus qui a dit ces paroles, et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées, mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. La résistance à venir à la lumière est proportionnelle à l'attachement au péché et souvent à un défaut majeur de l'homme, du cœur de l'homme, qui est l'orgueil. Heureusement que Paul nous dit « Autrefois, vous étiez ténèbres ». Et on a voulu montrer cela ce matin. Et la bonne nouvelle, c'est que « Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur ». Est-ce qu'il y a eu un « maintenant » dans votre vie? Est-ce que vous vous êtes donné à Christ pour devenir un enfant de lumière? Autant le verbe est au passé, vous étiez ténèbres, c'est une affaire passée. Maintenant, c'est une affaire présente et continuelle. Ici, vous êtes en présent. Nous sommes dans lumière dans le Seigneur. La Bible dit, Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Il nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Dieu est lumière, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Maintenant, je crois qu'il y a un appel ici. Si Dieu déclare que je suis lumière et que je suis un enfant de lumière, Dieu me déclare aussi que je dois me séparer des ténèbres. Et c'est pour ça qu'il y a une exhortation très forte et un commandement au verset 10 et au verset 11 d'examiner ce qui est agréable au Seigneur et ne pas prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Autant il y a des œuvres qui viennent et qui sont fructueuses de la lumière, autant il y a des œuvres infructueuses des ténèbres. Mais reconnaissons, frères et sœurs, que le croyant qui s'affaiblit et qui a des ombres dans sa vie parce qu'il flirte entre la lumière et les ténèbres est celui qui fait des concessions envers le péché. Le péché est la porte entrouverte pour retomber dans les ténèbres. Il y a tout un appel ici à vivre dans la lumière. Nous sommes lumière. Nous ne sommes pas dans la lumière, nous ne sommes pas de la lumière. Maintenant, nous sommes lumière. Notre nouvelle nature n'est que lumière. Christ en nous n'est que lumière. Donc vivons ce que Dieu nous déclare que nous sommes. Nous sommes la lumière du monde, le ciel, la terre. Nous sommes lumière. C'est extraordinaire cela. C'est pas moi qui peux me déclarer lumière, mais c'est parce que Christ habite en moi qu'il est lumière en moi et que je suis lumière. Brillez donc comme des enfants de lumière, marchez comme des enfants de lumière. Et ce qui est intéressant, et ce qui est merveilleux pour celui qui marche à la lumière, je vous lis un verset, moi qui me fait beaucoup de bien dans ma vie, « Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. » Plus nous vivons dans la lumière, plus nous grandissons dans la lumière, plus nous marchons dans la lumière, plus nous accomplissons des œuvres de lumière et plus Dieu nous remplit de lumière. Je vous exhorte à écouter ce verset qui est aussi bienfaisant pour nous. Par ta lumière, je vois ta lumière. Nous ne pouvons pas nous éclairer par nous-mêmes, mais nous pouvons être éclairés pour voir encore plus. Donc Dieu veut nous éclairer de plus en plus. Quelles sont les caractéristiques de la lumière? Rapidement, verset 9. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Est-ce que c'est cela que vous vivez dans votre vie? Est-ce que vous êtes rempli de bonté, de justice et de vérité? Ce sont les preuves, n'est-ce pas, de salut. On peut être baptisé, on peut venir dans une église, on peut même donner une offrande à l'église, mais ça ne veut pas dire qu'on est régénéré et qu'on est plein de bonté, de justice et de vérité. Ces trois caractéristiques ici de la lumière marquent vraiment et reflètent la vie de l'esprit dans la vie du croyant. Première caractéristique ici, c'est toutes sortes de bonté. Remarquez que l'apôtre Paul disait au chapitre 4, un petit peu en avant, toutes sortes de méchanceté ou toute espèce de méchanceté, verset 31, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. Ici, il est écrit toutes sortes de bonté. Je ne sais pas vous, mais parfois, on a besoin d'être renouvelé dans l'exercice de l'amour qui est la bonté. Ça vous arrive jamais à un moment donné de penser, mais comment encore je vais faire pour aimer cette personne? Mais Dieu dit, sois plein de bonté. Vous avez été blessé, vous avez été frustré, irrité, il vous semble que vous ne pouvez plus continuer d'aimer. Mais la Bible dit que vous pouvez exercer encore de la bonté. C'est extraordinaire. Le puits de l'amour de Dieu est infini. Nous pouvons toujours aller à la source de la bonté de Dieu. Et exercer une bonté même envers nos ennemis qui nous persécutent. La bonté, c'est quelque chose qui a à faire avec non seulement dans sa nature l'exercice du bien, mais dans les effets qu'elle produit. C'est pour ça que Paul dit aux Thessaloniciens, recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi. Et la bonté, la Bible dit que c'est le fruit de l'esprit qui est l'amour, la paix, la bonté. Donc, nous ne pouvons pas exercer de bonté et être la lumière du monde sans être rempli de l'esprit de Dieu. Le deuxième fruit, c'est la justice. Je pense qu'il y a deux aspects là. Il y a le fait qu'on est justifié. Je sais pas vous, mais le moment où vous êtes converti, est-ce que vous avez pleinement réalisé que Dieu vous justifiait? Non pas parce que vous étiez bon, admirable, intelligent, beau, capable, mais vous avez été justifié uniquement sur la base de l'œuvre de Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas nous justifier nous-mêmes. On dit que la propre justice, n'est-ce pas, toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous comme des impurs, dit la Bible. Nous ne pouvons pas nous justifier devant Dieu, nous sommes coupables. Mais parce que Dieu a exercé sa justice au travers de Christ, nous avons reçu le pardon immérité de nos péchés. Nous avons reçu grâce sur grâce. Et à cause de cela, nous pouvons exercer maintenant la justice de Dieu. Nous avons compris quelle était la justice de Dieu. Par nature, maintenant, nous sommes appelés à vivre de la justice de Dieu. Donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort, que vous étiez, offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Que quiconque pratique la justice est né de lui, nous dit Jean. C'est une preuve d'une réelle conversion. Pratiquer la justice, haïr l'injustice. La Bible dit que l'amour, n'est-ce pas, ne soupçonne point le mal et qu'elle se réjouit de la justice, de la vérité. Nous devons être remplis de cet esprit-là et aussi de l'esprit de vérité qui est en opposition à l'hypocrisie, la tromperie, les mauvaises façons de faire de la vie dans les ténèbres. En fait, si vous regardez le texte avec moi, tout le chapitre 4 ici nous montre des œuvres infructueuses des ténèbres qui sont décrites dans ce passage. Il est question de vol, il est question de colère, il est question de mensonge, il est question de mauvaises paroles, et plus loin il est question d'amertume, d'animosité, de colère, de clameur, de calomnie, de toute espèce de méchanceté. Il est question au verset 3 de débauche, impureté, cupidité. On a regardé en détail dimanche dernier le mot débauche, pornia, qui souligne toutes les relations illicites dans le domaine sexuel, les relations en dehors des liens du mariage, mais aussi tout ce qui est déviation, adultère, homosexualité, les pratiques lesbiennes, l'inceste, et en fait les pratiques en dehors des liens du mariage. Que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Maintenant, il y a ceux qui peut-être fréquentent l'Église en général, n'est-ce pas, et qui pensent être croyants. Mais nous devons regarder attentivement dans nos vies et voir si nous sommes vraiment des enfants de lumière et si nous sommes vraiment habités du fruit de la lumière, qui est la bonté, la justice et la vérité. La bonté, c'est quelque chose de puissant. Nous sommes appelés à aimer, puis à exercer la bonté. Si vraiment nous exerçons la bonté dans notre vie, et le pardon, pardon sur pardon, par rapport à ceux qui nous offensent, quelque part, la bonté a un chemin qui, comme une perceuse, perce, n'est-ce pas, les cœurs les plus durs. La bonté est une puissance de Dieu dans nos vies. Alors un chrétien, j'aimerais dire qu'un chrétien peut perdre peut-être le fruit de la lumière comme la bonté, la justice et la vérité, mais il doit se relever. N'est-ce pas? On compare souvent un chrétien à un non-chrétien. Un non-chrétien, excusez l'image, mais c'est comme un cochon qui se vautre dans le bourbier puis qui reste, qui est content d'y rester. Tandis qu'un croyant, c'est une brebis. Quand la brebis tombe dans un bourbier, elle veut se relever, elle n'aime pas être sale. Un chrétien qui est né de nouveau ne peut pas vivre et vouloir continuer de vivre dans le péché. Il est malheureux. Il attriste le Saint-Esprit en lui. Il peut être plus malheureux que même un inconverti parce qu'il ne veut plus vivre dans le péché. Il a faim et soif de justice dans son cœur. Mais lorsqu'il y a une absence complète de bonté, de justice et de vérité, et je dirais un certain attachement au péché, alors on peut se poser la question si vraiment la personne est sauvée. C'est pour ça que la Bible nous dit « Examinez ce qui est agréable au Seigneur ». Verset 10, c'est un commandement ici. Nous devons examiner, tester ce qui est autour de nous. J'aime bien le verset en Thessaloniciens qui dit « Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon ». Nous ne voulons pas être comme des éponges qui reçoivent toutes sortes de choses, n'est-ce pas? C'est pas parce qu'on est un enfant de Dieu qu'on est, un crétin. Un enfant de Dieu utilise son bon sens, son intelligence et surtout la connaissance des Écritures et il est prêt à examiner toutes choses et à retenir que ce qui est bon. Il y a un choix à faire dans la vie, retenir ce qui est bon. On peut écouter beaucoup de choses, mais la Bible nous dit de retenir ce qui est bon. Et dans le psalmiste dit, car auprès de toi est la source de la vie, par ta lumière nous voyons la lumière. Vous avez déjà passé la sécurité à l'aéroport? Oui. Une fois, je pensais passer la sécurité en toute sécurité et liberté. J'avais changé ma trousse de toilette avec tout ce qu'il fallait. Vous savez, l'aftershave en dessous de 120 mg, etc. 120 ml, tout ce qu'il fallait. Et donc, j'ai ma petite trousse pour le voyage. Et puis en passant à la sécurité, on me fouille, enfin mes bagages, me disent « Monsieur, il y a un problème ». Je dis « Ah bon ?» Effectivement, j'avais oublié une poche sur le côté de la trousse de toilette. Et on l'ouvre, il y avait un magnifique canif, un couteau suisse, parce que j'avais pris la trousse de toilette d'un de mes enfants qui est parti au loin, donc il n'en a plus besoin. Mais quelle déception, un magnifique couteau suisse. Et vous savez ce que j'ai dû faire, hein? C'est dommage. Une fois, j'avais pris une bouteille de vin. Là, c'était vraiment insensé. J'avais oublié. Et on m'a dit, monsieur, non, excusez-moi. J'ai dit, tenez, buvez-la ma santé. C'était un cadeau pour un ami que je visitais à Paris. Alors, voyez-vous, on se prépare pour passer quelque part au rayon X. Mais quand on n'a rien à se reprocher, pas de bombes, n'est-ce pas? Pas d'armes. Pas de choses illicites, d'aérosols qui peuvent exploser, enfin vous comprenez tout cela, des lames de rasoir, des couteaux. On passe en toute sécurité les rayons X de la sécurité. Mais c'est pareil un peu avec le Seigneur. Examiner tout ce qui est agréable au Seigneur, c'est être prêt à exposer sa vie au rayon X, la parole, et de réaliser si vraiment on est correct avec le Seigneur. Et s'il y a des choses qu'on doit abandonner, le bip rouge va s'allumer et puis on va nous dire, monsieur, alors est-ce que nous acceptons d'être examinés par le Seigneur, d'être sondés par le Seigneur? Moi, je ne veux pas être sondé par mes pensées, Je ne veux pas être sondé par mes émotions, je ne veux pas être sondé par ma propre volonté, parce que je peux me tromper. Mais je veux être sondé par Dieu, par son esprit, par les Écritures. Ta parole est une lumière sur mon sentier, et je veux me soumettre aux Écritures. Quel est votre choix ? Est-ce que vous acceptez de passer la sécurité du Seigneur et de vous dépouiller des choses qui doivent être abandonnées ? C'est pour ça que Paul nous dit ceci, je vous le lis. « Je vous écris dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les débauchés, non pas d'une manière absolue avec les débauchés de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous écris, c'est ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui se nomme en frère est débauché, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, ne pas même manger avec un tel homme. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, que ce soit de la part d'un non-croyant, ou que ce soit de la part d'un croyant. » Un commentateur a dit ceci, et je vous le lis parce que je sais que moi-même, dans la période de travail que j'effectuais comme architecte, je me souviens d'une agence où on voulait m'imposer certaines choses, et à un moment donné, j'ai dû dire non, parce que ça ne correspondait pas à des valeurs chrétiennes que je voulais continuer de suivre en toute bonne conscience. Alors il y a parfois une limite d'être dans le monde, parce qu'on n'est pas du monde. Et j'aimerais vous lire ce qu'a écrit un commentateur. Il dit « Les enfants de lumière ne devraient même pas être liés à ce qui est mal par association. Nous ne pouvons pas rendre témoignage au monde sans aller dans le monde, certes. Et nous ne pouvons pas aller bien loin dans le monde sans entrer en contact avec toutes sortes de choses répréhensibles. Mais nous ne devons jamais nous associer à ces choses ou leur donner la possibilité de s'attacher à nous. Faire des compromis avec les normes divines, c'est affaiblir notre témoignage et notre caractère par-dessus. Nous devons nous permettre aucun acte répréhensible. » Je crois que je vous l'ai cité, mais tant pis, je vais me répéter. J'ai un ami au Québec, un cher frère, qui était diacre dans l'église où j'étais le pasteur, qui me racontait que tous les jours à midi, dans sa boîte à lunch, il mangeait évidemment ce qu'il avait préparé, puis il lisait sa Bible. Et un jour, il y en a un ouvrier dans l'usine où il travaillait qui a commencé à mettre des posters, n'est-ce pas, très osés, on va dire, pour être poli, sur tous les murs du local où les gens mangeaient ensemble. Alors cet homme-là s'est levé et il a déchiré tout cela face à son copain, n'est-ce pas, qui avait tout installé. Il a dit « Tu ne mettras pas ça ici, moi je ne veux pas vivre avec ça. » Et l'autre a commencé à remuer un petit peu, mais il faut dire que mon copain était très costaud. Il a dit « Ah ouais, tu veux te battre ?» Comme ça, ça s'est résolu comme ça. Bon, c'est peut-être pas la bonne façon, mais en tout cas, je vais vous dire qu'il faut prendre position. Il faut prendre position dans nos pensées, dans nos cœurs, dans nos actes. Une porte entrouverte, il suffit de pousser un petit peu encore pour qu'elle s'ouvre bien grande. Mais si vous laissez la porte fermée, vous poussez, non, vous n'ouvrez pas, à moins de baisser la poignée. C'est vis-à-vis du péché la même chose. Le monde veut nous envahir. Satan veut nous envahir. Satan veut nous envahir. Il veut nous affaiblir. Mais la Bible dit qu'on ne doit pas prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Et si votre patron veut que vous mentiez, vous n'êtes pas obligé de mentir. Même s'il pense que c'est une bonne façon pour vous de lui plaire et de chercher une promotion. Il vaut mieux perdre son travail que de mentir. Il vaut mieux perdre son travail que de vivre dans le compromis. Il y a le caractère de vérité du croyant, de la lumière, qui fait qu'il veut vivre dans la vérité. Il ne supporte pas le mensonge. Et donc ce qui n'est pas de Dieu est à rejeter. Et même si vous êtes dans une classe, une école, une université, ou dans votre bureau et des gens veulent vous entraîner à participer à leur péché, vous avez le droit et même vous avez l'autorité en Christ de refuser parce que vous êtes lumière. Il vaut mieux être persécuté par des incroyants parce que vous résistez au péché que d'être persécuté par le péché. Parce que le péché mord et le péché a toujours des conséquences dans notre vie. C'est pour ça que le mandat que nous avons, c'est « mais plutôt condamnez-les, nous devons résister à cela ». Et nous devons apprendre à vivre dans la lumière et à ne pas nous laisser écraser par le péché de ce monde. C'est un mandat. Si ton frère a péché, non seulement envers les incroyants, mais envers les croyants, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes. S'il refuse de l'écouter, dis-le à l'Église. Un démon aujourd'hui, excusez-moi de dire cela, mais je le pense, un démon aujourd'hui de certaines églises, on va dire, c'est le manque de discipline. On n'appelle plus péché, péché. On n'ose plus déclarer ouvertement ce qui est le péché. On n'ose plus dénoncer ouvertement tellement d'églises qui vivent dans le péché. Et quand on commence ce genre de compromis, on a toutes sortes de déviations, de libéralisme, et finalement, j'allais dire même de déviation de la doctrine, d'apostasie. Le péché frappe à la porte de l'Église subtilement et parfois à nos cœurs, mais nous devons lui résister. C'est pour ça que Paul disait à Timothée, « Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. » Quel est l'instrument que nous pouvons utiliser pour dénoncer le péché ? Nous devons utiliser la parole de Dieu. Mais est-ce que nous le faisons réellement ? Est-ce que nous n'avons pas une tendance à laisser faire des compromis ? Puis finalement, est-ce que nous avons la force de caractère pour résister et isoler le péché ? Vous avez vu, peut-être comme moi, vous avez lu ou vu à la télévision les conséquences, n'est-ce pas, du tsunami au Japon. Et les gens qui sont prêts, il y a des articles que j'ai lus dans certaines revues, où des gens sont prêts, des anciens ingénieurs du nucléaire à la retraite, qui sont prêts à aller sur place pour décontaminer le site, pour permettre à l'autre génération de plus jeunes de s'installer, pouvoir revivre sur le site. Ils sont prêts à sacrifier leur vie pour cela. Mais ils sont contaminés. Et la seule façon, n'est-ce pas, de décontaminer ce qui doit être décontaminé, c'est de l'isoler. Et pareil pour le croyant, nous devons apprendre à nous isoler de ce qui peut nous contaminer. C'est la seule façon. Et j'ai oublié mon PowerPoint, excusez. Il est temps. Et je termine, rassurez-vous. Voilà, je vous laisse sous les yeux le plan ici. Enfin, ne pas prendre aux œuvres infructueuses, part aux œuvres infructueuses des ténèbres, un commandement. Les condamner, c'est notre mandat. Et puis, un appel divin. C'est pour toi, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Je ne sais pas vous, mais quand j'ai lu longtemps ce passage, je me suis dit, mais ça s'adresse à des croyances là ou à des incroyants ? Ben, je pense que ça peut s'adresser aux deux. En tout cas, Dieu nous invite à marcher de manière digne, à ne pas marcher comme des païens, à connaître Christ, à marcher en nouveauté de vie, à changer de conduite, à marcher dans l'amour et à marcher dans la lumière. Marcher dans la lumière, c'est faire le contraste avec les ténèbres, porter du fruit. Le fruit de la lumière, la bonté, la justice, la vérité, examiner ce qui est agréable au Seigneur, à ne pas prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres, les condamner. Et puis, finalement, il y a un défi personnel, je pense, qui nous est laissé dans ce passage ici. Est-ce que vraiment je suis un enfant de Dieu ? Est-ce que vraiment je marche comme un enfant de lumière ? Et y a-t-il un domaine dans ma vie qui a besoin d'être amené à la lumière de Christ pour être purifié, émondé, abandonné, transformé. Alors, il y a un appel divin. Je pense que cet appel divin s'adresse tout d'abord à quelqu'un qui ne connaîtrait pas le Seigneur. Réveille-toi, toi qui dors. Le péché est anesthésiant. Moi, ce qui me frappe quand on interroge des cyclistes, n'est-ce pas, qui sont arrêtés pour dopage, ils sont prêts à jurer sur la tête de leur famille qu'ils ne sont jamais dopés. On retrouve des seringues, on retrouve dans leur sang toutes les traces, n'est-ce pas, de leur doping. Puis ils disent non, je ne sais pas, j'ai pris quelques médicaments que m'a prescrit mon médecin, n'est-ce pas. Vous avez jamais entendu cela ? Le péché endort, je peux vous dire qu'à un moment donné, le péché endort, et qu'il y a des gens qui veulent tellement vivre dans le mensonge qu'ils ne savent plus reconnaître le mensonge de la vérité. Alors toi qui dors dans le péché, ben il est temps de te réveiller, puis de te relever d'entre les morts. les morts, c'est pas les morts physiques, puisque c'est un appel qui est donné d'entre les morts spirituels, les morts dus au péché, d'entre les morts, et Christ éclairera, c'est la bonne nouvelle. Alors s'il y avait quelqu'un ici ce matin qui ne connaît pas encore le Seigneur, qui n'est pas un enfant de lumière, eh bien il y a une exhortation de l'apôtre Paul ici qui termine cette description pour le croyant de marcher dans la lumière, que toi-même tu deviennes un enfant de lumière. Et pour cela, Christ doit t'éclairer, mais tu dois reconnaître que le péché t'a peut-être ensommeillé et que tu es mort spirituellement. Et tu as besoin de Christ qui lui va t'éclairer, qui va te donner la vie. Prions s'il vous plaît. Notre Père Céleste, merci d'avoir placé encore une fois devant nous ce passage sur la marche dans la lumière. Merci que non seulement tu nous appelles à porter le fruit de la lumière, mais aussi à renoncer, à nous séparer de toutes actions mauvaises, n'est-ce pas, autant dans nos vies d'ailleurs qu'autour de nous, à ne pas y prendre part et à les condamner. Et c'est vrai, Seigneur, que nous voulons gagner des âmes à toi. Nous voulons voir des âmes venir à toi. Mais Seigneur, garde-nous de nous compromettre pour essayer de les amener à toi. Mais au contraire, de vivre une vie tellement séparée du péché que la lumière jaillisse tellement avec puissance de nos vies que cela les convainc de péché et les amène à la connaissance de Jésus-Christ. Te prions aussi de nous donner le courage à dénoncer le péché, même chez nous les croyants, et à le condamner et à ne pas participer, mais à le rejeter. Seigneur, tu nous appelles à vivre dans la vérité, dans toute la lumière, et nous t'en rendons grâce ce matin. Merci Père de cet appel que tu lances à celui qui ne serait pas encore éclairé et qu'il sorte des ténèbres. Paul disait, je vous en supplie, au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Te remercions Père de ces moments passés ensemble pour te louer, pour t'adorer. Nous te remercions Seigneur de nous enseigner, de nous éclairer dans nos vies. Nous avons besoin de toi. Nous nous humilions devant toi pour te réclamer la lumière de Dieu dans tous les domaines de notre vie, afin que nous puissions pratiquer des œuvres de justice, de bonté et de vérité. Amen.